faut créer nos buts par nous-mêmes.
Nous, on a fait total pour trois têtes. On est parti voir les démons, on est parti faire des experts.
L'enjeu, c'est de ne pas demander de subvention, de ne pas s'institutionnaliser et garder l'indépendance politique.
Mexique, Kanaki, Kurdistan. Dialogue sur l'autonomie et la résistance. Discussion organisée dans le cadre du Rassemblement intergalactique, ZAD, Notre-Dame-des-Landes, 1er août 2021.
On a donc des personnes qui soit ont été en lutte depuis le fait qu'elles habitent, qu'elles ont grandi sur les territoires kurdes, kanak ou zapatistes, soit des personnes qui sont venues lutter à leur côté et les soutenir. Quand on a préparé cette discussion, on avait pensé que les combats zapatistes pourraient être là, et pour les raisons qu'on sait, ça n'a pas été possible. Donc dans le cas du Chiapas, on a des soutiens actifs qui ont passé pas mal de temps là-bas. Dans le cas du Kurdistan, on a un maire en exil kurde, Vessel, et deux camarades engagés, volontaires, internationalistes, qui ont passé beaucoup de temps là-bas dans les dernières années. Du côté des soutiens actifs au Chiapas, nous avons Cybèle et Virginie. Et côté Kanak, on a François, militant indépendantiste Kanak, qui vit en France à l'heure actuelle et qui est venu lui aussi présenter l'histoire de la lutte indépendantiste Kanak et qu'on remercie.
Quelle forme de contre-insurrection ?
Vous aviez envie de revenir les unes et les autres sur les formes diverses et dégueulasses, je dirais, que peut prendre la contre-insurrection pour écraser les tentatives d'autonomie et d'indépendance de chacun de ces territoires, mais aussi sur la diversité des stratégies mises en place pour ne pas se faire écraser.
La contre-insurrection en Kanaki.
François Carré, militant indépendantiste kanak.
Alors bonjour tout le monde, donc je suis très heureux encore d'être là pour cette deuxième journée. Je remercie encore tous les camarades de la ZAD qui m'ont permis effectivement de pouvoir intervenir et puis de présenter un petit peu la situation politique en Kanaky. Pour rebondir un petit peu sur ce concept de contre-insurrection, dans le cadre du Pacifique, du cadre de la Nouvelle-Calédonie et de la Kanaky, la contre-insurrection est permanente. Elle est permanente, effectivement, nous, on fait face à la fois au colonialisme, mais on fait face aussi au ravage du capitalisme. En tout cas, ce qui est proposé comme type de développement, soit dans le cadre de l'indépendance, mais soit dans le type d'économie qui est présenté, qui se développe en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. D'abord, pour un peu souligner par rapport aux deux intervenants, concernant la situation kurde et puis la situation des zapatistes du Chiapas, d'abord on a plein de résonances, donc on a une résonance commune donc sur les modalités effectivement de répression. Sur les réponses et sur les stratégies qui sont posées, les Kanaks n'ont pas effectivement de structure militaire organisée. Donc on n'est pas sur une stratégie militaire, on est sur une stratégie beaucoup plus politique, donc d'alliance, d'établir effectivement avec l'ennemi, entre guillemets, avec l'autre, avec l'État, avec le gouvernement et aussi les représentations et les organisations politiques sur place qui représentent en fait l'électorat de droite et d'extrême droite, qu'on appelle plus ou moins les loyalistes, qui défendent la position du maintien de la Kanaky Nouvelle-Calédonie au sein de la France.
Deux phases de contre-insurrection en Kanaky.
En fait, concernant la contre-insurrection sur la situation coloniale en Kanaky et Nouvelle-Calédonie, il y a la première phase en fait, qui commence en fait en 1853 jusqu'à fin 1945, début des années 50. Et puis une autre phase de contre-insurrection qui commence dans les années 50 à nos jours. La première phase concerne en fait la prise de possession, c'est-à-dire le début de la colonisation, la prise de possession par la France. Des terres kanak. qui commence en fait dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, dans la Grande Terre. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une grande terre avec des îles loyautés et puis un ensemble d'archipels qui, autour de ce territoire. Et pour cette première phase, c'est d'abord effectivement donc une contre-insurrection, enfin c'est une contre-insurrection, c'est d'abord une occupation militaire, mais religieuse aussi. La première base de la colonisation française, c'est une mission catholique qui a été installée effectivement en province, dans la province nord, enfin, actuellement dans la province nord, mais dans la région de Balade. Et c'est la première base militaire ou religieuse, puisque le catholicisme, enfin en tout cas l'Église, avait cette ambition d'apporter en fait la bonne nouvelle, mais pas uniquement qu'avec la Bible, mais aussi avec une force militaire, puisque du fait de la présence de cette mission catholique, qui ont eux aussi spolié des terres, donc des terres kanaks, ont fait l'objet d'un certain nombre de révoltes. Et à chaque fois, la réponse à ces révoltes a été des massacres, donc des répressions assez importantes, puisque pendant la période précoloniale, les Kanaks étaient estimés à 300 000 âmes, sur tout l'ensemble de la Kanakie. En 1914-1915, les Kanaks sont comptabilisés à 14 000, voire 15 000, 20 000, 20 000 personnes. Et pendant cette période coloniale, la période coloniale a commencé effectivement avec d'abord une colonisation pénale, où le bagne, après celui de Guyane, mais celui d'Algérie aussi, tout se passait en même temps. Quoi. Donc le gouvernement à l'époque, le pouvoir en place, Napoléon III, avait décidé d'utiliser la Nouvelle-Calédonie comme le troisième bagne français, quoi. Donc voilà. Et donc il y a une première colonisation pénale, et donc la deuxième colonisation fut la colonisation libre. Là, la colonisation libre a pu effectivement se mettre en place grâce à la répression et à la spoliation foncière. Les réponses, en fait, les stratégies qui étaient menées à l'époque par les organisations sociales étaient extrêmement difficiles, puisque les révoltes se passaient effectivement sporadiquement. Et hier, j'ai plus ou moins abordé un peu l'organisation sociale kanak, qui était organisée par clan. Et donc, chaque aire linguistique, il y a sa propre organisation, avec des réseaux d'alliances, etc. Et pour prévenir effectivement d'une occupation par les colonisateurs et par les colons en général, les communications se faisaient difficilement, se faisaient à pied, etc. C'est une époque effectivement où on a été confronté à l'arrivée de l'Occident qui avait d'autres moyens de déplacement, une organisation beaucoup plus structurée, etc. Et la seule réponse ou la seule stratégie qu'on pouvait mettre en place pendant cette période, c'était une stratégie tout simplement de révolte. Donc avec une méthode de combat effectivement qui correspondait à la situation de guérilla, etc., etc. Toujours est-il qu'on n'avait pas du tout le rapport de force. Et donc à la fin de cette période, en 1945-1950, les organisations religieuses, comme j'avais souligné hier, l'UECALO pour l'Église catholique et l'ASLF pour l'Église protestante, ont mis en place en fait une organisation politique de représentation des indigènes. Et l'objectif de cette organisation, c'est d'insérer les indigènes. À l'époque, on disait les indigènes dans une partie qui était autorisée de la scène politique. Donc seuls les représentants religieux, seuls les notables, les pasteurs et les curés avaient droit effectivement à la parole, et c'était eux les interlocuteurs entre les indigènes et le pouvoir colonial. Dans cette période-là, la préoccupation des notables kanaks, des responsables kanaks religieux à l'époque, était à l'amélioration des conditions de vie des kanaks, Donc ça concerne effectivement la scolarité, l'éducation, donc ça concerne aussi la vie sociale, ça concerne aussi un certain nombre d'actions et d'associations religieuses ou bien-être, etc. etc. Pour la deuxième phase, c'est la phase, je dirais, de contre-insurrection, mais là c'est différent, c'est que hier après-midi, j'ai parlé effectivement d'une partie des premiers étudiants kanaks qui sont partis en France, qui ont pu bénéficier de l'influence à la fois de mai 68, mais de certains courants marxistes, sont revenus pour créer un parti, qui est le Parti de Libération Kanak. Et l'objectif de ce parti, c'est de mettre à l'ordre du jour la question coloniale, puisque bien avant, effectivement, la question coloniale faisait l'impasse. Il s'agissait effectivement de faire alliance avec le colonisateur et de discuter effectivement des mesures, on va dire, sommaires qui concernent les Kanaks. Et dans les années 60 et début des années 70, là, c'est l'inversion. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'amélioration des conditions d'hygiène kanak, mais c'est la question coloniale qui est posée. C'est la question, effectivement, des terres kanak. C'est la question de retrouver son identité à travers son territoire, puisque mon identité à moi est directement dans un relief, donc dans un relief, dans le cadre d'une courbe d'une rivière ou d'une forêt, etc. Et il fallait, pour cette période-là, retourner effectivement vers nos propres références, et de poser effectivement la place, la place des Kanaks, mais la place effectivement du peuple kanak dans ce contexte colonial. Ça veut dire effectivement une remise en cause effectivement des rapports avec la France, ça veut dire souligner les injustices du système de l'indigénat, ça veut dire souligner aussi la mise à l'écart en fait d'une grande majorité des Kanaks, d'abord concernant l'éducation, le social, la reconnaissance de la culture et tout. Et dans les débuts des années 80, l'arrivée de la gauche, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, la réponse, la stratégie qui était adoptée par l'Union calédonienne était d'établir une alliance avec l'État français, en tout cas avec François Mitterrand et le Parti socialiste à l'époque, pour non seulement mettre à l'ordre du jour la question coloniale, mais aussi commencer à engager les discussions sur le processus de décolonisation. Donc, et dans ce processus de décolonisation, c'est donner la place effectivement au peuple autochtone, donc au peuple kanak, donc dans des institutions politiques et tout. Et ce qui a symbolisé en fait cette rencontre, cette négociation, c'est la rencontre de Nabil Héroch avec Georges Lemoine à l'époque, où on a commencé à poser les bases en fait de ce que j'appelle une alliance ou un partenariat avec la France, et de rediscuter de la répartition politique et administrative de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie de façon à ce qu'on puisse avoir une place importante. Avec, pendant la période où il y avait une période de cohabitation, donc d'abord il y avait plusieurs statuts. Dans les années 80, il y avait le statut Fabius Pisani. Pisani a été envoyé effectivement pour proposer donc aux indépendantistes et à la droite coloniale un statut qui permet effectivement de sortir de toute cette première phase entre la période coloniale et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la droite coloniale a refusé effectivement ces accords. Ces statuts ont pu se mettre en place. Les Kanaks ont pu bénéficier effectivement, d'abord, dans une première phase, ça a été la première expérience des indépendantistes à pouvoir gérer des collectivités. Et une période qui a duré jusqu'en 86-87. Entre 84 et 87, les indépendantistes se sont engagés en fait, dans la gestion effectivement des collectivités qui étaient proposées à l'époque. Donc la Nouvelle-Calédonie était séparée en régions, donc la région nord, la région centre, la région sud et la région des îles. Les indépendantistes géraient trois régions. Pendant cette période de 80 à 84, il y a eu une phase insurrectionnelle, enfin ce qu'on appelle plus ou moins insurrectionnelle. Les Kanaks se sont mobilisés sur le terrain pour interpeller le gouvernement en faisant des barrages, en faisant des actions, etc. Et qui a abouti à ce statut que je viens de décrire. Arrive en fait la période de cohabitation avec Chirac, où Bernard Ponce, ministre de l'Outre-mer, a mis un terme en fait à toute cette période transitoire, toute cette première époque du processus de décolonisation, pour revenir à un statut régressif, c'est-à-dire la non-prise en compte du peuple kanak, la non-prise en compte de la spécificité et de la place politique au sein même de la population, mais la primauté en tant que peuple colonisé. Et pendant ces deux laps de temps, le FNKS a d'abord ajusté sa stratégie, d'abord une stratégie pacifique, donc avec des marches, avec des actions non violentes, etc., avec des grèves de la faim, avec un travail important au niveau du réseau de soutien national et international. Donc, des responsables du FNLKS, du Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, ont commencé effectivement à établir des contacts avec le comité de décolonisation donc à l'ONU, avec de certains mouvements de gauche en Australie, des mouvements de gauche ou des peuples autochtones, les Maoris, donc en Nouvelle-Zélande, et pour commencer à rendre tangible effectivement le soutien en France à travers le réseau syndical, les organisations politiques de gauche, d'extrême gauche, et au niveau des contacts avec aussi des pays des non, à l'époque c'est des pays des non alignés, donc avec l'Algérie, enfin, en tout cas avec le FLN qui était au pouvoir à l'époque, pour partager un petit peu à la fois de trouver des caisses de résonance à la lutte du peuple kanak, mais trouver aussi des stratégies, puisqu'on est, on est une minorité, enfin on est, les kanaks c'est quoi, c'est 95 000 personnes, donc c'est pas grand monde. Il fallait effectivement établir des alliances. Donc, la stratégie militaire n'a jamais été une option pour nous, vu le nombre qu'on représentait, vu l'espace très limité, effectivement, puisqu'on est en milieu insulaire, donc c'est plus ou moins très difficile, effectivement, d'engager une stratégie militaire. Mais par contre, pour l'action directe, pour les actions sur le terrain, etc., les occupations, etc., donc là, on avait opté plus ce type de stratégie.
La stratégie du FLNKS.
Donc la deuxième phase de contre-insurrection, la stratégie qu'a adoptée le FLNKS début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est la stratégie de l'alliance. La stratégie d'alliance avec le pouvoir colonial, avec l'État français, et de trouver un interlocuteur. Et le mouvement indépendantiste, c'est donc... Après l'événement de la prise d'otage d'Ouvéa, après le massacre des 18 camarades, le FNKS a décidé de s'engager dans un long processus, d'abord avec un premier accord, l'accord de Matignon-Odilo, et 10 ans plus tard, en 1998, avec la signature de l'accord de Nouméa. Ces deux accords, en fait... donne une part importante d'abord à la place des Kanaks, une part importante d'un point de vue politique, culturel, etc. La reconnaissance effectivement du peuple, la reconnaissance de la colonisation, du fait colonial par la France avec le préambule de l'accord de Nouméa, ce qui est pour nous une marque importante parce que c'est la première fois dans la série de statuts qu'on a pu avoir en Kanak et Nouvelle-Calédonie, à aucun moment on fait référence à l'existence d'un peuple autochtone, à l'existence, effectivement, à la spécificité de la civilisation kanak. Et ce préambule a permis de réajuster, effectivement, de donner une place prépondérante, en donnant la responsabilité aux kanak d'établir, en fait, des liens avec avec les colons, avec ceux qui sont venus dans les années 50 avec le développement du nickel, etc., etc. Donc la stratégie est purement institutionnelle. Le FNKS s'appelle le choix adopté effectivement pour des raisons évidentes. À la différence des Kurdes ils sont des millions, les apatistes sont aussi, je parle des millions aussi, non, bah, ouais, une centaine de mille. Et le choix stratégique des indépendantistes et du FNKS en particulier, c'est de pouvoir effectivement acquérir l'indépendance. L'indépendance à travers effectivement une pratique démocratique en prenant en compte un contexte démocratique sur place. La stratégie effectivement de ce que j'appelle en fait une stratégie démocratique, bien avant d'opter pour cette option, on a négocié effectivement une restriction du corps électoral. Comme vous devez sûrement le savoir, c'est un territoire français, la Nouvelle-Calédonie, et à une certaine époque, enfin il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, n'importe quel Français qui débarque pour un séjour d'une semaine, deux semaines, un mois, pouvait librement participer aux élections municipales, etc. Donc voilà. Et la population kanak a été rendue minoritaire par une immigration assez importante, d'abord des gens du Pacifique, donc de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont venus à une certaine période pour le développement du nickel, pour le boom du nickel. Ces gens se sont installés et en grande majorité, ces gens votent contre l'indépendance et votent à droite et à l'extrême droite pour la grande majorité d'entre eux. Une grande majorité d'entre eux votent pour les élections législatives ou présidentielles en France, votent à 47 à 57% pour le Front National, enfin en tout cas le Rassemblement National de Marine Le Pen. Voilà. Et face à ça, les indépendantistes ont négocié avec l'État français, et l'État français, enfin en tout cas avec Rocard à l'époque, la possibilité d'une restriction du corps électoral à ceux qui peuvent justifier de 10 ans, voire de 15 ans, de résidence en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent justifier de biens moraux ou de biens matériels et autres. Donc voilà. Donc c'est un combat qu'on a pu obtenir, donc, ce qui permet effectivement de donner la possibilité aux électeurs kanaks et indépendantistes d'assurer en fait une présence au-delà du symbolique, mais en tout cas une présence, une force importante. Et le travail qu'il nous reste à faire en tant que pour le troisième référendum, puisqu'il y a eu un premier référendum en 2018, un deuxième référendum en 2020, et là, le troisième référendum, c'est cette année, donc le 12 décembre. Et notre stratégie, c'est de pouvoir, effectivement, dans un cadre démocratique, en tout cas dans ce cadre-là qu'on a accepté, de gagner, de convaincre, effectivement, et de gagner ce référendum pour l'accès à la pleine souveraineté. Ce qui pose actuellement, c'est la question de l'indépendance, c'est la question de l'exercice de la pleine souveraineté, parce que voter oui pour l'indépendance, c'est une chose. Mais définir effectivement l'exercice de la souveraineté, c'est une autre. Et au sein même du mouvement indépendantiste, nous sommes en train de discuter effectivement comment on l'exerce cette souveraineté et comment on la contrôle. Parce que certaines organisations politiques indépendantistes kanak défendent l'idée d'un partenariat avec la France, soit dans une période transitoire ou soit sur un très très très long terme. Et la question pour nous, parce que c'est de l'intérêt effectivement de l'État français et des loyalistes, en tout cas les électeurs de droite sur place, de maintenir en fait une stratégie de maintien. Le maintien de la France, d'abord sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est quand même important, si on reprend un peu la théorie des dominos, si la Nouvelle-Calédonie tombe, c'est le reste des territoires français qui tombent aussi. Et là, on est en phase, en fait, à une stratégie de la part de l'État français d'essayer d'assurer, effectivement, l'exercice des compétences régaliennes au-delà d'une période de transition. En cas de oui, c'est sûr que l'État français va essayer de défendre ses intérêts, donc sur place, donc oui à l'indépendance. Et en cas de non, la question coloniale reste quand même d'actualité. C'est-à-dire que s'il y a un non majoritaire et un non à l'indépendance, il aura de toute façon de nouvelles négociations. Enfin, en tout cas, c'est la stratégie que le 25 se donne avec l'État et avec les représentants de la droite coloniale en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, en gros, à la situation, le contexte auquel on fait face, quoi. Et donc la contre-insurrection ne se fait pas uniquement de manière sanglante ou dans le cadre d'une révolte, d'une répression. Elle est aussi dans une stratégie à la fois politique pour pouvoir effectivement défendre ses intérêts. Donc c'est pas que l'intérêt de la France effectivement de se payer une nouvelle répression, mais d'essayer de nous convaincre ou en tout cas de redéfinir des modalités de servitude. Voilà.
La contre-insurrection au Kurdistan.
Vessel Kesser, commère en exil d'İpekyolu, Kurdistan.
De nouveau, bienvenue, je suis très content d'être ici. Hier, on a pu aborder beaucoup de thématiques, mais donc on veut aussi continuer à en discuter aujourd'hui. Et de nouveau, je voudrais remercier l'organisation de ces rencontres qui ont permis qu'on soit là aujourd'hui. Dans nos régions, il y a une guerre longue, ça fait des années qu'il y a une guerre sale qui est menée contre notre peuple. Ça fait plus de 40 ans que cette guerre continue. Et l'État ne procède pas seulement à une guerre de façon officielle, en fait, de façon ouverte, mais utilise aussi énormément de tactiques différentes pour réussir à vaincre la résistance du peuple kurde. Et donc une des techniques qu'ils utilisaient, c'était celle de la contre-guérilla, qui était en fait des groupes paramilitaires payés par l'État turc qui revêtaient en fait les vêtements de la guérilla kurde et qui allaient dans des villages, et notamment en fait en choisissant assez stratégiquement des villages qui étaient liés à certaines tribus. Et donc, parce qu'il y a un système tribal clanique qui existe dans la société kurde. Et en fait, dans ces villages, brûlaient ces villages, du coup, au nom, en se faisant passer pour la guérilla, et assassinaient aussi souvent des leaders tribaux, des chefs de tribus, avec l'objectif qu'en fait, toute la tribu, après, se retourne contre le mouvement de libération kurde. Et en fait, ils utilisaient bien sûr aussi leurs médias, la presse, la télévision, les journaux pour diffuser cette information en disant la guérilla a fait telle action, ils ont brûlé tel village, ils ont assassiné telle personne, pour que ça se répande à un niveau plus large que juste dans cette tribu-là. Et en fait, ça a aussi été vraiment à l'origine du fait que des tribus en fait ont pris les armes contre la guérilla kurde parce qu'ils pensaient qu'en fait ils étaient... ils étaient barbares, quoi. Face à cette propagande de l'État turc, il y avait aussi des intellectuels, des journalistes, par exemple, qui avaient pour objectif de montrer la vérité, d'expliquer que ces actions n'avaient pas été commises par la guérilla. Et ces gens-là sont aussi devenus la cible de la répression de l'État turc. Et très souvent, en fait, ont été assassinés, ont été arrêtés. Voilà, la police, quand même, des hommes armés, masqués, venaient chez eux, qui n'étaient pas en habit de police, venaient chez eux, les arrêtaient. Et en fait, pendant un mois, 10 jours, 2 mois, plusieurs mois, des années, parfois, étaient donc disparus. Jusqu'à ce qu'un jour, leur corps apparaisse dans une autre province, très loin de l'endroit où ils avaient été enlevés. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de personnes à qui c'est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé à Moussa Anter, qui était un intellectuel kurde très très connu et respecté. Qui a été assassiné de cette manière-là par l'État turc. Et donc, en fait, là, on parle plutôt des années 90, hein, particulièrement. Et il y a des milliers de militants de la gauche en Turquie aussi des journalistes, des parlementaires, des politiciens, par exemple aussi le président de notre parti, enfin ce qui était, voilà, les, comme on a expliqué hier, les partis kurdes légaux ont changé de nom parce qu'ils ont tous été interdits, fermés de force, puis ils sont renés de nouveau sous un autre nom. Et donc Vedat Aydin, qui était le président de leur parti, qui s'appelait HP à l'époque, HP, a été aussi assassiné de cette manière. Il a été enlevé depuis sa maison à Ahmed et assassiné. En fait, c'était vraiment une stratégie d'essayer de viser toutes les personnes qui peuvent avoir un rôle dans la société, qui en fait ont, qui ont déjà une notoriété dans la société et qui vont être ceux et celles qui peuvent en fait mener la lutte et de viser spécifiquement ces personnes-là, et aussi avec des techniques par exemple comme de mettre des bombes aussi dans leur voiture, donc de les faire exploser dans leur voiture sur des choses plus spectaculaires. Et donc sur au final, au cours des années 90, au niveau des associations des droits de l'homme, on recensait 17 000 personnes comme ça qui ont été assassinées ou disparues de force. Et je voudrais terminer, mais je voudrais rappeler aussi un dernier épisode de cette guerre sale qui est menée. La dernière, c'était aussi l'assassinat de trois femmes kurdes à Paris en 2013. Le perpétrateur de cet assassinat, c'était quelqu'un qui prenait ses ordres directement du MIT, donc des services secrets turcs, qui était lié aussi aux loups gris, qui sont une organisation fasciste nationaliste en Turquie. Et donc les trois femmes, c'était Sakine Jansis, Fidan Dogan et Leyla Shailemes. Et là, l'État allemand a publié une liste de gens qu'ils savent être sur une liste des services secrets turcs pour des assassinats en Europe, qui sont principalement des militants politiques, des élus, des intellectuels kurdes qui sont en exil en Europe et qui savent en fait maintenant qu'ils sont sur une liste d'assassinats, quoi. Enfin, voilà, j'aurais plein d'autres exemples à donner puisque cette guerre, elle se déploie de différentes manières, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ça.
Merci.
La guerre de l'eau au Rojava.
Marie, militante internationaliste.
J'ai essentiellement fait du travail média au Rojava et on s'est rendu compte que quand il y avait les vraies guerres extrêmement violentes, donc les invasions de la part de la Turquie, il y avait beaucoup d'attention médiatique. Et la dernière invasion, elle a eu lieu en 2019, qui a coûté la vie à des milliers de personnes, qui a forcé des centaines de milliers à fuir, qui a impliqué donc les destructions de sites historiques, etc., etc. Donc c'est évidemment une forme de guerre que la Turquie utilise contre le Rojava, mais depuis il y a d'autres formes de guerre, des guerres de basse intensité on peut dire, qui se déploient et qui attirent beaucoup moins l'intérêt des médias, mais qui sont pourtant extrêmement violents, comme la guerre de l'eau. Donc en fait, il y a deux rivières, le Tigre et l'Euphrate, qui naissent au Kurdistan, qui se trouve en Turquie, au Bakour, mais sur les dernières décennies, la Turquie a construit plus de 20 barrages sur ces deux rivières, des barrages énormes qui servent à irriguer les champs en Turquie et qui permettent en fait à la Turquie de contrôler le flux notamment de l'Euphrate qui entre en Syrie. Et en fait actuellement l'Euphrate en Syrie est à un niveau historiquement bas, ce qui est à la fois aussi dû au changement climatique. Donc c'est une région qui est touchée par des sécheresses et une augmentation des températures, mais aussi par le fait que la Turquie peut, selon sa volonté, retenir et freiner et réduire le flux de l'Euphrate. Et donc pour le nord-est de la Syrie, ça veut dire que des barrages hydroélectriques ne peuvent pas fonctionner, enfin les centrales hydroélectriques ne peuvent pas fonctionner, donc ça implique des coupures d'électricité qui peuvent, notamment quand il fait chaud, rendre la vie insupportable. Ça implique que le long de l'Euphrate, les stations de pompage d'eau qui irriguent les champs ne peuvent pas fonctionner. Donc encore une fois, ça renforce la sécheresse et ça crée une insécurité alimentaire dans une région essentiellement agricole. Donc ça, c'est une forme de guerre de l'eau extrêmement violente et pourtant invisible et lente, mais qui a le même effet que des invasions peuvent avoir, c'est-à-dire de forcer les gens à migrer ou de tuer aussi. La deuxième forme de guerre de l'eau, elle implique en fait le fait que la Turquie, en 2019, elle a occupé un territoire qui se situe entre la ville de Serekaniye et Tel Abyad. Et dans cette zone occupée par en fait essentiellement des gangs soutenus par la Turquie, il y a une station de pompage d'eau et la Turquie peut arrêter cette station et dont dépend pourtant 1 million de personnes qui vivent dans le nord-est de la Syrie, notamment dans la ville de Hesekê et dans les camps de déplacés. Donc les personnes qui ont été obligées de fuir leur maison dépendent de cette station d'eau qui est actuellement occupée. Et la Turquie utilise des coupures systématiques de cette station à Louk pour en fait demander l'approvisionnement en électricité de ces territoires occupés. C'est une situation très complexe. Mais voilà, c'est aussi une violence très très forte en fait, et pourtant invisible, enfin, difficile à visibiliser médiatiquement.
Enquêtecritique.org est une plateforme de recherche en sciences sociales 100% indépendante, gratuite et autogérée depuis les luttes. Pour continuer, nous avons besoin d'aide. Participons à la caisse de soutien sur Hello Asso et faisons la tournée. Suivons-nous sur les réseaux sociaux. Défendons notre autonomie. Spectre.